Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Nathalie Lévy, et c'est l'heure de zoomer toutes les infos du jour avec les grandes voix. Elles sont là, autour de vous, confinées, à distance. Eve Roger, chef du service Société d'Europe 1, Axel de Tarlé et Mickaël Darmon, éditorialiste, et Arthur M. Bachet, notre correspondant dans le Grand Est. Bonsoir les grandes voix, bienvenue à tous.
On va passer
comme chaque soir une demi-heure ensemble avec la politique pour démarrer avec vous ce soir, Mickaël Darmon, parce que Édouard Philippe, le Premier ministre, est actuellement avec les députés marcheurs, La République en marche. Il est en train de se justifier, de s'expliquer, de débriefer et de faire aussi des annonces.
Oui, effectivement, à l'instant même, devant donc les députés de La République en marche, Édouard Philippe vient de dire, que, de manière assez grave, que l'économie est au bord de l'écroulement, que nous envoyons, dit-il, de la morphine avec le chômage partiel, mais tenez-vous bien, le chômage partiel va se transformer en chômage tout court. On doit donc relancer la machine économique, et on est sur une ligne de crête, et quand on est sur une ligne de crête, on est obligé d'avancer. Vous voyez, un discours extrêmement grave, qui au fond est un petit peu en décalage avec ce qu'il avait dit dans l'introduction de son discours à l'Assemblée nationale, en disant nous devons éviter l'écroulement. Et bien là il dit devant les députés, et bien nous sommes en train de nous écrouler, et c'est effectivement peut-être un cran supplémentaire dans la volonté de prévenir les Français et les élus de la nation de la gravité de la situation.
Et évidemment de les rappeler à l'ordre pour cette ouverture le 11, évidemment ce déconfinement important, essentiel, Axel de Tarlé, de la morphine avec le chômage partiel. C'est une phrase forte, c'est l'image évidemment est extrêmement parlante.
Mais oui, mais parce que les chiffres qui ont été publiés ce matin là, donc sur la croissance au premier trimestre, qui sont les pires depuis que l'INSEE existe, moins 5,8%, c'est du jamais vu depuis 1949. Et ben je vais vous dire, c'est de la gnognotte par rapport à ce qui nous attend. Je m'explique. Le premier trimestre, quand s'est-il terminé? Il s'est terminé le 31 mars. C'est-à-dire que sur le premier trimestre, il n'y a eu que 15 jours de confinement. Et vous vous rendez compte? Il y a eu deux malheureuses semaines de confinement sur les trois premiers mois de l'année. Et ces deux malheureuses semaines ont réussi à polluer, à casser la croissance au point qu'elle est tombée à moins 5,8. Donc je vous laisse imaginer quel sera le chiffre du deuxième trimestre, où là, il n'y a pas deux semaines de confinement. Là, on est en plein confinement, il dure depuis des semaines et des semaines. Écoutez, je l'ai fait le calcul. Quand on est en confinement, l'économie recule de 35%. Donc, pour reprendre...
C'est du jamais vu, celle de Tarlé.
Ah bah, 35, si vous voulez, déjà, moins 5,8, c'était du jamais vu. Donc, moins 35, c'est pas du mot du jamais vu, c'est du hallucinant.
Comment on
fait ça? C'est du hors-sol. Non, mais c'est pour ça que le Premier ministre, quand il dit l'économie est en écroulement et ça ne se voit pas, il a raison. Et c'est pour ça qu'il faut vite reprendre. Je refais un petit calcul. Donc là, de toute façon, jusqu'au 11 mai, on sera en confinement, donc du moins 35. Si la deuxième partie du trimestre, on reprend, alors je vais être optimiste, aller à moitié, eh ben ça fait la première moitié à moins 35, la deuxième à moins 17. On va faire une moyenne pour le second trimestre à moins 20. Alors pour donc moins 20, déjà, c'est hors sol, quoi. Moins 22. Ouais. Alors pour répondre à votre question, et c'est la partie optimiste de la réponse. Comment on en sort? Il s'est pas passé une guerre. On n'a pas détruit les usines à coups de bombe. Les usines sont sous cloche. Elles peuvent redémarrer. Et quand elles redémarreront, on aura un rebond. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle, si vous voulez. Et grâce au chômage partiel, qui coûte cher, on n'a pas renvoyé les salariés chez eux. On n'a pas perdu les compétences, comme cela se passe aux États-Unis. Il y a encore eu des chiffres aujourd'hui. 30 millions de chômeurs, donc ce sont des gens licenciés. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez remarqué, mardi dernier, le Premier ministre, il n'a pas employé le mot chômage partiel, il a employé le mot activité partielle, pour bien montrer qu'on restait dans l'entreprise, qu'on était toujours là, prêt à redémarrer. Bah oui, il a raison, le Premier ministre, il faut que ça redémarre vite.
Il faut que ça redémarre vite, effectivement, et on voit quand même, je ne sais pas si vous l'avez noté, vous, là où vous vous trouvez en confinement, mais on sent, on voit beaucoup plus de véhicules dans les rues, on voit des magasins qui se préparent à ouvrir, on voit quand même que ça reprend, que le souffle là est en train de repartir. On en parle dans un instant également. Eve Roger, on a une interrogation ce soir, une fois encore, sur l'histoire des masques, sur leur efficacité, sur leur utilité ou pas, obligatoire ou non dans l'espace public un peu partout en France. Gérard Collomb, pour lui, ancien ministre de l'Intérieur, pour lui, oui, dans l'espace public, dans la rue, il l'a dit. Ministère de l'Intérieur, on n'est pas du tout sur le même son de cloche. Non, c'est vrai qu'on se demande bien pourquoi, au fond, le gouvernement ne nous dit pas, mettez tous des masques. On a vu à Iéna, là, cette ville allemande, que les contaminations avaient disparu. Et c'est vrai qu'en réfléchissant, on voit bien qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Dans les mauvaises raisons, je pense, la première, c'est que je crois que le gouvernement ne peut pas dire, mettez tous des masques dans l'espace public, parce qu'il n'est pas sûr que tout le monde puisse en avoir un. Ou en tout cas, suffisamment pour tenir, il en faut 3 par jour, même des masques en tissu. On nous a promis 38 millions à partir du 11 mai. Donc je pense qu'il y a, il en manque encore un peu pour rendre le masque obligatoire. Et puis dans les autres raisons qui sont moins des raisons matérielles, je pense qu'il y a une raison idéologique aussi. Est-ce qu'on peut imposer en France le port d'un masque comme ça se passe en Asie? Ça fait pas partie de notre culture. Il y a beaucoup de, les Français sont des râleurs. Alors tous ceux qui sont inquiets, ben, vous les voyez déjà dans la rue, tout le monde le porte, enfin pas tout le monde, tous les gens inquiets le portent déjà. Donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de l'imposer aux autres? Et puis la troisième raison, ça c'est celle que souffle le conseil scientifique, on n'a pas la preuve absolue, en tout cas absolue, de l'efficacité de ces masques en tissu, de ces masques grand public. Alors c'est vrai que la direction générale de l'armement donne une efficacité technique, c'est-à-dire qu'effectivement les filtrations en dessous de 3 microns, ben, ça marche bien, mais on n'est pas tout à fait sûr de l'effet sur la population. L'effet, est-ce qu'on se contamine ou est-ce qu'on se contamine pas? Donc je pense que c'est tout ce faisceau de raisons qui fait que aujourd'hui le gouvernement ne peut pas dire allez-y, c'est prouvé, et il y en a assez, c'est obligatoire. Voilà.
Et c'est ça. On va aller voir un petit peu avec vous, Arthur Mbaché, dans votre région Grand Est, hein, évidemment, qui a été très touchée et ce qui se joue aujourd'hui. Parce que Ève Roger nous le dira peut-être un peu plus tard, il y a cette carte des départements rouge-vert qu'on connaîtra là maintenant dans à peu près une demi-heure. Chez vous, est-ce que c'est clair? Est-ce que les choses se dessinent clairement?
Non. La réponse est non. Ce qui est frappant, c'est que ça part dans tous les sens même. Vous savez, mes enfants, je vais tout vous dire, on fait de la peinture cet après-midi. Je leur ai demandé de mélanger du rouge et du vert, parce que ça commençait à se mélanger dans ma tête, justement. La différence entre les deux catégories et les conséquences de ces deux catégories, c'est pas net. Bon, pour info, avec de la gouache, ça donne du marron, sachez-le. Apparemment, si on a bien compris, si vous êtes rouge le 11 mai, collèges et parcs et jardins fermés, pas le choix, là c'est clair. Mais pour tout le reste, là c'est à voir, les écoles, les crèches, les commerces, les transports, les masques, les tests, etc. etc. Être rouge ou vert, on voit pas trop ce que ça change. Les élus locaux trancheront manifestement. Exemple, deux exemples, Strasbourg et Colmar. Deux villes, on verra ce soir, mais bon, a priori rouge, même bien rouge. Eh bien, on apprend cet après-midi que les écoles dans ces deux villes rouvrent le 11 mai. Nuance. Pas les maternelles à Strasbourg, trop petit apparemment, mais à Colmar, oui, les maternelles, les grandes sections. Et là, dit même le maire de Colmar, avec un masque, même chez les petites 5 ans. Alors que le Premier ministre, on l'a entendu l'autre jour, a dit pas de masque en maternelle. Bon, les masques, justement, le maire de Strasbourg dit, comme Gérard Collomb, je suis favorable à ce que le masque soit obligatoire partout dans l'espace public, mais sans préciser si ça allait être vraiment le cas ou pas ici à Strasbourg. Les commerces à Strasbourg, pareil, ça rouvre le 11 mai apparemment. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que Ève en pense. On aura peut-être des détails ce soir sur les conséquences que ça a d'être chez les rouges ou chez les verts. Pour le moment, moi, je vois du marron.
Oui, on a bien compris. On n'est pas loin de vous, hein, je vous rassure, en termes de couleurs. On voit bien que entre les différents maires et les différentes municipalités, il va y avoir un peu de tout. Hein, ça va être ça.
Et les départements et les régions.
Exactement, bien sûr. On va se reparler dans un instant avec vous, les grandes voix, et avec vous dans le Grand Est, Arthur Mbaché. À tout de suite.
Europe 1.
Nathalie Lévy, la suite de votre grand journal du soir avec les grandes voix qui vous entourent.
Oui, les grandes voix, pour revenir sur les différentes actualités liées au Covid-19 aujourd'hui. Michaël Darmon, on a commencé un petit peu à le voir partout, ou en tout cas les punchlines, les meilleurs extraits. Cette offensive média de Didier Raoult à Marseille et sa chloroquine, on voit qu'il n'a pas dit son dernier mot.
Ah non, il n'a pas dit son dernier mot. Et ce qui est intéressant, au fond, indépendamment, on ne va pas rentrer dans les polémiques et les assertions scientifiques qu'il pose, mais enfin, force est quand même de constater que c'est en quelques mois un personnage qui s'est imposé dans toute la société. Et au fond, j'ai regardé pas mal de conférences de Didier Raoult ces jours-ci. Avant, il y a quelques années, notamment lorsqu'il faisait des conférences devant des élèves sur ses convictions, sur sa manière de voir la science et les méthodes, il n'était pas connu du grand public. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'au fond, eh bien, c'est un personnage qui a un discours dont la teneur parle peut-être dans le sous-texte aux Français, c'est-à-dire que il n'est pas un complotiste, mais il porte une critique radicale sur les choix établis par les institutions. Il dit, c'est pas forcément faux ce qu'ils disent, mais il y a autre chose. Et regardons autre chose. Et au fond, il est un petit peu comme une sorte de prolongement, je dirais, médical des Gilets jaunes, et aussi paradoxalement un macronien. Emmanuel Macron a dit aux Français en 2016, il a dit aux étudiants de Georgetown quand il est allé en déplacement, bousculez, soyez indisciplinés, renversez les convictions. Et effectivement, de ce point de vue-là, il y a une forme de déco et qui peut-être peut expliquer l'ampleur et l'ancrage d'un coup de ce personnage dans la société, indépendamment du bien fondé de ses découvertes et de ses affirmations.
Traitement, évidemment. Ève Roger, pour continuer à rester aussi dans cet aspect-là, mais pour élargir aux différents traitements dont on nous parle et aux solutions, on parle d'un autre process, le remdesivir. Oui, alors vous pouvez nous expliquer.
Alors, c'est un antiviral qui avait été inventé pour soigner Ebola, puis ça n'avait pas marché, ça n'a marché pour aucune maladie, ce médicament. Mais c'est vrai qu'il est, l'antiviral est aujourd'hui testé partout dans le monde, et que les États-Unis ont produit une étude hier, qui est une première étude sur 1000 patients, donc une grande étude avec un groupe témoin, donc dans les règles de l'art, si je puis dire, et qui a montré que dans les cas sévères, la guérison arrivait plus vite, c'est-à-dire au lieu de guérir dans les 15 jours, on guérissait dans les 11 jours. Alors c'est vrai qu'on peut se dire 4 jours, on gagne 4 jours, mais ça semble être quand même une piste très intéressante, m'a dit un infectiologue aujourd'hui, mais pas autant. Je reviens à notre conversation de la semaine dernière, que le tocilizumab, vous en souvenez, qui permettait justement d'éviter de passer en réanimation et donc de mourir. Là, on n'a pas, enfin en tout cas pour l'instant, là on n'a pas de preuve que ça fait baisser la mortalité.
Oui. Avec donc, des c'est études une piste d'ailleurs qui sont contradictoires quand même.
Voilà, c'est ça. Alors, il y a une étude chinoise qui est moins positive, mais qui est effectivement sur moins de patients. Mais disons que pour l'instant, ça reste quand même une piste qui continue à être intéressante.
Voilà, alors, intéressante, mais voilà, on attend plus d'éléments là-dessus. Axel de Tarlé, on se parlait évidemment il y a un instant de la chute historique de l'activité. Je voudrais aussi vous entendre sur les actions de la BCE, de la Banque Centrale Européenne et des propos de Christine Lagarde. Hein.
Oui, parce que ça, je trouve que c'est très encourageant. Alors, c'est un peu complexe. C'est ça le problème de la Banque Centrale Européenne. C'est que ce qu'elle fait est complexe. Du coup, on en mesure mal la profondeur. Je vais essayer d'être simple. Vous savez, on parle du bazooka de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, pour payer le chômage partiel, pour aider les entreprises, tous les pays, il n'y a pas que la France, tous les pays ont besoin de lever des dizaines, d'emprunter des centaines de milliards. Mais il y a 10 ans, quand ils faisaient là, vous souvenez, lors de la crise des subprimes, ils empruntaient auprès de qui? Ils empruntaient auprès d'investisseurs institutionnels, d'Américains, de vous et moi. Vous saviez, quand on met notre argent à la banque, on la met en assurance vie, on veut être remboursé. Bon, et ben aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On n'emprunte plus du tout à ces gens-là, qui sont des gens exigeants parce qu'ils vont être remboursés. On emprunte, et c'est totalement nouveau, on emprunte à la Banque Centrale Européenne, à Madame Lagarde, qui dit, écoutez, je vous prête de l'argent autant que vous voulez, et vous me rembourserez quand vous pourrez, et je vous le prête à zéro. C'est quand même génial d'avoir au coin de sa rue un banquier qui vous dit, tu peux emprunter tant que tu veux, autant que tu veux, tu me rembourseras quand ça ira et je te facture zéro. Même mieux, on est en taux négatif. C'est-à-dire quand on emprunte, on vous donne,
je crois.
Voilà, on vous donne de l'argent quand vous en tiens et je te remercie de t'avoir emprunté, repars avec 500 euros. C'est ça l'action de la Banque Centrale Européenne, qui est d'une profondeur et qui permet à tous les pays européens qu'on puisse payer nos chômeurs, qu'on puisse continuer à bouffer, tout simplement. Et alors quand on parle du manque de solidarité en Europe, je trouve que c'est un peu injuste parce que cette Banque Centrale Européenne qui est décriée, elle fait vraiment un job de solidarité qui fait, écoutez, j'ai regardé justement les taux d'intérêt auxquels empruntent tous les pays européens. Ouais. Nous, on emprunte à 0,4, mais même un pays comme la Grèce, qui ne pouvait pas emprunter, qui est obligé d'emprunter à 10-15%. En ce moment, elle emprunte à 2,7%, c'est trois fois rien. L'Italie à 2,2. Pourquoi? Parce que c'est la Banque Centrale Européenne qui prête. Et donc ça, si vous voulez, c'est quand même, c'est on a beaucoup de soucis, des soucis sanitaires, des soucis d'entreprise, mais on a un souci qu'on n'a pas. Contrairement à beaucoup de pays dans le monde, hein, contrairement au Liban, hein, contrairement à beaucoup de pays, c'est qu'on a de l'argent, qu'on peut emprunter de l'argent autant qu'on veut, et de l'argent à très très bas taux. C'est quand même une excellente nouvelle que de voir que l'Europe s'est dotée de cet outil puissant de solidarité qu'est cette BCE à Francfort, dirigée en plus par Christine Lagarde, la française.
Voilà les initiatives anti-crise de la BCE dirigée par Christine Lagarde. Merci. Arthur Mbaché, restez dans le coin. On arrive chez vous dans le Grand Est dans un instant.
Je vous attends.
À tout de suite.
Le monde est confiné, mais il n'a jamais autant changé.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Tous les matins, nous sommes à vos côtés pendant 3h30 pour faire le tour de l'information et de vos interrogations. Revue de presse internationale, économie, édito politique, la revue de presse que de Nicolas Canteloup, bien sûr. Europe 1, plus que jamais, à votre écoute.
La matinale d'Europe 1, présentée par Mathieu Béliard.
Restez chez vous, mais restez avec nous. On se retrouve demain, dès 6h, sur Europe 1.
Si en ce moment vous êtes plutôt série au lit et que même votre lit ne vous offre plus de rebondissement, alors nous avons des solutions. Retrouvez toutes nos idées d'inspiration et nos offres spéciales sur Ikea.fr. Comme par exemple, du 16 avril au 3 mai, la structure de lit banquette de place Brimness à 149€ au lieu de 199€. Et comme tout faire pour vous aider à être bien chez vous est plus important que jamais, nous garantissons la livraison chez vous en toute sécurité. IKEA.
Banque Populaire, toujours aux côtés des entrepreneurs. À tous nos clients, artisans, commerçants, agriculteurs, TPE, PME, qui subissent les conséquences de cette crise sans précédent, vous pouvez compter sur notre soutien. En tant que banque créée par et pour les entrepreneurs, nos conseillers sont mobilisés partout en région pour analyser votre situation personnelle et vous accompagner avec des dispositifs exceptionnels, comme notamment le prêt garanti par l'État ou le report de vos échéances de prêts professionnels. Retrouvez l'ensemble de nos mesures sur banquepopulaire.fr ou contactez votre conseiller. Banque Populaire, toujours à vos côtés.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec 19h, jusqu'à 19h, les grandes voix à vos côtés, Nathalie Lévy.
Oui, avec Arthur Mbaché dans le Grand Est pour Europe 1, bien sûr, votre région qui a été en première ligne depuis le début de cette crise sanitaire, avec peut-être quand même des raisons de se réjouir, en tout cas d'être un petit peu dans l'espoir de temps en temps. Arthur, on a vu bien sûr la pollution, elle a baissé un peu partout dans le monde, et les abeilles alsaciennes, eh bien, elles raffolent de cette période.
Non, une info positive un peu, ouais. Pour oublier les chiffres terribles que nous a donné Axel tout à l'heure. Le miel coule à flot ici dans la région. Alors il y a un effet météo tout bête qui n'a rien à voir avec le confinement. Il a beaucoup plu au début du printemps et puis après il y a eu un grand soleil. Plus, vous l'avez peut-être senti aussi en région parisienne, des pollens très abondants. Mais c'est pas tout. Il y a donc un effet du calme environnemental sur la production des abeilles et de miel et le bien-être des abeilles. Donc un effet sur la flore. Des pistes cyclables qui ne sont pas empruntées, des chemins agricoles, des chemins forestiers qui ne sont pas piétinés. Résultat, vous avez des fleurs de pissenlit à l'appel, là, notamment dans le nord de l'Alsace, des haies d'aubépine qui s'épanouissent en pleine forme, touffues, généreuses pour les abeilles qui, elles aussi, profitent du calme actuel. Vous avez personne dans les sentiers, pas de bruit en forêt, les bûcherons sont à la maison. Vous savez, quand vous passez à côté d'un oiseau, vous savez tous, hein, ils s'envolent, bah, les abeilles, c'est pareil. Donc là, elles n'ont pas peur, elles sont bien, elles sont épanouies, elles sont peinards. Circulation automobile quasi inexistante aussi. Oui, donc, c'est le paradis. Des kilos et des kilos de miel, du jamais vu en 30 ans de métier, m'a dit tout à l'heure un apiculteur alsacien.
Voilà quelques raisons quand même de se réjouir. On les cherche, on les trouve quand même. Ève Roger, je voudrais vous entendre quand même ce soir sur la rentrée scolaire. Parce que zone rouge, enfin département rouge ou vert, région rouge ou verte, eh bien cela ne changera rien. On a entendu Arthur Mbaché, Strasbourg versus Colmar, avec des écoles qui seront ouvertes, des classes selon, etc. On nous dit eh bien que l'école, ce sera au choix, en quelque sorte, hein, pour les parents, volontaires ou pas. Mmh. Est-ce que dans la pratique, vous pensez vraiment qu'on va vers ça ?
Moi, il me semble qu'en entendant les règles d'hygiène, j'ai l'impression que tout a été monté. Il y a 63 pages pour nous dire à quel point les enfants seront protégés, presque pour décourager les parents de mettre les enfants dans l'école, tellement ça paraît ubuesque ce mécano. Alors, j'ai quand même interrogé Virginie Salmen, qui est notre spécialiste éducation, ouais, entre autres, et qui, et finalement, à la réflexion, on se dit que peut-être que finalement, c'est une sorte d'entraînement. On a déjà commencé avec les enfants des soignants, ça faisait pas beaucoup d'enfants dans les écoles. Là, au mois de mai, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ne mettront pas leurs enfants à l'école, on fait ça pour les rassurer, mais ils ne le sont pas. Mais il va y avoir une sorte d'entraînement, parce que finalement, en septembre, ça aurait été la même chose. Alors que là, à partir de maintenant, il va y avoir des entraînements dans quelques écoles, enfin, sans doute beaucoup d'écoles. Il y a quand même 6 700 000 enfants Donc forcément, et puis on a entendu Axel tout à l'heure, il va bien falloir que les parents retournent travailler, donc c'est une sorte d'entraînement, et puis petit à petit, peut-être en septembre, on sera mieux, et ça se passera bien, et ça sera efficace, et moi je pense qu'il faut plutôt le voir comme ça.
Est-ce que, et peut-être qu'on pourra avoir des éléments en réponse grâce à vous, grâce à Virginie Selmen demain, est-ce qu'on sent déjà une grève montée chez les enseignants, et jusqu'au 4 juillet, c'est-à-dire date des vacances scolaires, est-ce que c'est un peu la petite musique qu'on commence à entendre? Je vous laisse essayer de trouver les infos.
Oui, on peut peut-être trouver des infos. Ce que j'entends surtout, c'est les parents plutôt qui disent on va pas les mettre nos enfants à l'école. Bien donc s'il y a moins d'enfants à l'école, ça veut dire que les enseignants ils auront les moyens peut-être de travailler dans cette forme là. C'est possible que ce soit ça. Bon. Plutôt dans ce sens là.
On n'a pas fini d'en parler de toute façon. Michael Darmon, un petit détour par vous parce qu'on a parlé de la vente du muguet. Évidemment, 1er mai oblige demain dans le journal de Sébastien Krebs. Cette vente du muguet, alors, possible, autorisée ou pas demain?
Écoutez, il faudra comprendre, parce qu'à l'instant même, le gouvernement donc communique officiellement en disant que les règles n'ont pas changé, que la vente n'est pas autorisée dans la rue et par les fleuristes qui pouvaient mettre, tel qu'on comprenait, le muguet sur le pas de leur porte, mais que c'est autorisé uniquement sur livraison ou retrait de commande. Donc, ce qu'on a cru comprendre depuis une heure environ, sur le fait que les fleuristes pouvaient vendre donc leur muguet sur le pas de leur porte, et bien manifestement le gouvernement est en train de contredire cette information et en annonçant donc officiellement que les ventes de muguet chez les fleuristes ne seront possibles que sur livraison ou retrait de commande.
Exactement. Et Axel de Tarlé, je me tourne vers vous pour peut-être avoir un complément d'information. On sait que le beau temps a permis une récolte exceptionnelle cette année pour le muguet. Mais avec le confinement, du coup, les producteurs pourront pas écouler leur stock. Et c'est pas des chiffres négligeables, hein.
Ah mais oui, mais dans tous les secteurs, on a ça, c'est que la France, en fait, on ne s'en rendait pas compte. Du coup, on se rend compte de tas de choses, du coup, avec ce confinement. On exporte 40% de notre lait, donc on ne sait plus quoi faire de notre lait. Notre vin, alors on le savait qu'on en exportait énormément, et vous rendez compte qu'on a 300 millions de litres de vin dont les viticulteurs ne savent pas que faire. Et du coup, ça paraît un crime de lèse-majesté, ils ont demandé à l'Union Européenne l'autorisation de transformer ce vin, de le distiller pour le transformer en gel hydroalcoolique. Vous voyez, donc on va se laver les mains avec l'alcool du vin. Mais partout dans le monde, aux États-Unis, vous avez vu cette histoire là, les abattoirs il y a plus personne tellement les gens ont Covid, et du coup les fermiers américains ne savent plus que faire de leurs cochons et ils sont en train de les euthanasier. Oui, il y a des tas de goulets d'étranglement dans tous les secteurs, notamment dans le secteur alimentaire, dans le muguet, etc. Et ça perturbe tout ça. C'est pour ça que la reprise sera compliquée. J'entendais tout à l'heure Eve parlait de la reprise. C'est une symphonie, la reprise, hein. Il faut que tout le monde soit là, soit prêt au bon moment, tous les fournisseurs, et en aval derrière les concessionnaires, et tout le monde prêt à la rouverture sera plus compliquée que le confinement.
Voilà, très compliqué cette reprise, mais on s'y prépare et on vous aide à vous y préparer aussi en vous informant chaque soir sur Europe 1 grâce aux grandes voix qui font de la pédagogie. Merci à tous, merci Arthur Mbaché depuis le Grand Est.
Merci.
Ève Roger, Axel de Tarlé, Michael Darmon, on vous retrouve demain, endroit, même heure. Salut les grandes voix, merci à tous.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
L'info, Sébastien Krebs pour un nouveau journal complet, l'édition de 19h. Et puis à 19h30 ce soir, ce sont des artistes qui prennent la parole et qui nous racontent leur confinement. À tout de suite.
Europe 1.